Voilà, nous allons à présent poursuivre notre thématique de la semaine passée qui s'intitule « Perspective d'éternité ». Nous avions commencé avec ce dernier verset du psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons dit que, nous avons rappelé que finalement ce rêve d'éternité réside au fond de chaque être humain. Le rêve d'éternité, il a été mis par le Créateur et la vie sans l'éternité se résume, comme disait Salomon, à une vanité des vanités. Quelque chose n'est pas complet s'il n'y a pas d'éternité. Quelque chose n'est pas fini s'il n'y a pas l'éternité. Quelque chose manque s'il n'y a pas d'éternité. Notre vie prend du sens à cause de l'éternité. Et là déjà, vous pouvez dire amen. Je pense que nous sommes en route vers l'éternité. Et l'éternité, elle donne du sens à tout ce que nous faisons dans le terrestre. Chaque être humain soupire après cette justice totale. C'est vrai que dans l'Apocalypse, nous lisons « Seigneur, jusqu'à quand vas-tu tarder à faire justice ?» Quand on sait que des millions et des dossiers sans nombre sont fermés, mais qui ont été fermés dans l'injustice. Des gens ou des situations n'ont jamais été réglées avec une justice totale. Mais un jour, il y aura une justice totale. Nous parlerons de ça aussi. Cette justice totale doit exister. Et l'Apocalypse nous dit, lorsque le Dieu juste va tirer au clair tout ce qui n'a pas été tiré au clair sur la terre et tout ce qui n'a pas été juste jusqu'au bout des choses, eh bien les gens vont applaudir et dire « Alléluia, enfin justice est faite. Enfin le mal est aussi puni et le bien reconnu. » Ce Dieu de justice va faire tout cela, mais en son temps à lui, et cela fait partie des perspectives d'éternité desquelles nous parlons. Nous soupirons tous après un temps où la consolation est aussi totale. La consolation des épreuves, des larmes, de la souffrance et toutes ces choses vont-elles recevoir une consolation totale et finale ? Oui, dans ce lieu où il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni deuil, ni douleur. Ce lieu qui est préparé pour le peuple de Dieu. Ce lieu, cette perspective d'achèvement. Dieu n'a pas seulement un plan qui est en route, mais il a aussi un plan qui sera un jour terminé. Nous ne sommes pas dans une structure cyclique comme d'autres religions, comme par exemple l'hindouisme, c'est une structure cyclique. Les choses ont toujours avec un recommencement. Vous avez une vie, et puis d'après la croyance de la réincarnation, il y a un nouveau cycle qui redémarre, etc. Non, le plan de Dieu biblique, il est dans une ligne vers un parachèvement et vers une finalité du plan de Dieu qui sera celui qui est donné dans les prophètes et dans les prophéties de l'Apocalypse en particulier. Nous avons besoin non seulement de croire en Dieu, ce Dieu que nous ne voyons pas avec nos sens naturels, mais nous avons besoin et nous sentons qu'il doit y avoir quelque chose pour qu'un jour nous puissions voir celui que nous aimons. Nous puissions enfin voir celui en qui nous avons cru tant d'années. Croire sans voir, c'est ce qui nous est demandé maintenant. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Mais viendra le jour où nous le verrons face à face. Mais avec notre corps mortel, nous ne pouvons pas le voir tel qu'il est. Il faut qu'il y ait une autre dimension. Il faut que quelque chose en nous puisse trouver totale satisfaction. Jésus va dire à la Samaritaine, cette eau que tu bois, cette eau naturelle, tu auras encore soif. Nous avons encore soif tout à l'heure et demain, etc. Mais il y a quelque chose en nous que Jésus seul est capable de donner et qui va satisfaire éternellement cette soif intérieure. Ce désir intérieur non comblé totalement, eh bien, il doit être comblé par le Créateur qui a mis cette soif et ce désir et cette espèce de manque en nous pour l'éternité où ces choses seront complètes et totales. Donc le Créateur a Le Seigneur a donné dès l'origine, nous avons vu la semaine passée, qu'en soufflant sur l'être humain, eh bien, l'âme est devenue vivante, c'est-à-dire aussi éternelle. Elle est une âme, nous avons une âme vivante qui dure après la mort, elle est toujours là. Nous verrons aujourd'hui qu'il y a deux lieux, et non pas plusieurs, mais deux lieux précis. Le lieu de la perdition et le lieu du salut, le lieu du paradis, ces lieux qui sont des lieux éternels chacun, et notre destinée éternelle se décide dans notre vie ici-bas. Nous avons donc une responsabilité par rapport à cela. Il est bon de se rappeler aussi dans les jours que nous vivons que notre corps est fragile. Regardez avec moi le psaume 39, tu peux le mettre, psaume 39, verset 5. « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile, combien on est fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ta main, et ma vie est comme un rien devant toi. Tout homme debout n'est qu'un souffle, oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance ?» Oui, parfois, il est bon de se rappeler la fragilité de la vie, que nous ne contrôlons pas toutes choses, on le savait déjà, mais la fragilité de la vie est une réalité. Et pourtant, en nous, il y a cette... On s'accroche à la vie, chrétien ou pas, on s'accroche à la vie. On dirait que même le nouveau-né qui est arrivé, c'est son premier jour de vie, il a ses petits poings serrés, il s'accroche déjà à la vie. Il veut vivre, il se bat déjà, alors qu'il n'a que quelques heures de vie. J'ai suivi parfois des personnes qui étaient en fin de vie et qui s'accrochaient à la vie, qui s'accrochaient, ils voulaient vivre. Nous avons en nous ce qu'on appelle l'instinct de survie. On veut vivre. C'est en nous, cet instinct de survie est en nous. Nous avons, malgré notre fragilité, un immense et d'extraordinaires ressources pour vivre. Ça veut dire que nous sommes destinés à la vie et à la vie éternelle. Le Seigneur veut que nous puissions nous accrocher à la vie. Donc tout ce qui a un rapport avec la mort, avec des pensées de suicide, je l'en ai parlé la dernière fois, cela ne vient jamais de Dieu, ça vient toujours du diable, ça vient toujours de celui qui veut briser la vie, qui veut limiter le potentiel qui est en vous, qui veut briser le rêve que Dieu a pour vous et surtout la réussite de votre vie. Ces choses-là sont des ombres qui planent sur notre monde aussi aujourd'hui et qui sont vraiment cet esprit de mort qui doit être vaincu et brisé, chassé par le nom de Jésus. Nous sommes destinés à vivre, destinés à la vie et à la vie éternelle avec le Seigneur. Et cette pensée de l'éternité nous donne cet instinct de vie, cette envie de vivre, mais aussi cette motivation de notre activité. Nous sommes relevés parce qu'on veut vivre, c'est une motivation puissante pour aller de l'avant. Lorsqu'on est tombé, on est relevé par quelque chose qu'on ne s'explique pas toujours, mais qui est cet instinct de vie, cette envie de vivre, et cela vient du Seigneur. Le fait que l'enfant, quand il tombe, il se relève, il veut marcher, il est destiné à cela. Et nous, lorsque nous tombons, nous avons quelque chose qui nous relève. Et c'est grâce à la prière, c'est grâce à la présence de Dieu, c'est grâce aussi aux ressources intérieures que nous avons par le Créateur qui nous permet de vivre et de nous relever à chaque fois. Nous allons maintenant nous tourner vers un texte que nous allons méditer un peu dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, nous lisons les versets 19 et suivants. En parlant de l'éternité, nous allons faire quelques découvertes dans ce texte. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et à chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui l'apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, alors ils se repentiront. » Abraham dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. » Ce regard vers l'éternité est un texte particulier et je suis bien content qu'il soit sorti de la bouche même de Jésus et que c'est Jésus lui-même qui en parle. La mort fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette incertitude. Qu'y a-t-il après la mort ? Deuxièmement, la mort fait peur. Souvent, les gens n'ont pas peur de la mort, mais ils ont peur de la manière dont ils peuvent mourir, par la souffrance, la maladie, etc. Nous devons d'abord expliquer ce que veut dire mort. Parce que mort ne veut pas dire anéantissement, disparition, désintégration. Non, mort veut dire séparation. Le jour où tu toucheras, où tu mangeras ce fruit défendu, Genèse 3, tu mourras. C'est ce que Dieu dit à Adam. Est-ce qu'en prenant le fruit défendu, est-ce qu'il est tombé raide mort, est-ce qu'il a expiré ? Non, mais il a été séparé de la communion qu'il avait avec Dieu. À partir de ce moment-là, il est venu, il est parti se cacher, il était mal à l'aise, sa conscience l'accusait, et il disait, mais ce Dieu de près est devenu le Dieu de loin, je ne suis plus en paix avec lui. La séparation de mon âme avec la communion et la communion avec Dieu, cette communion cassée, rompue, provoque quelque chose en moi. Cette séparation, nous dit l'apôtre Paul, c'est la mort. Vous étiez morts dans vos enfances, mais Christ vous a rendu à la vie. Par le sacrifice de Jésus, cette séparation a été enlevée et la communion rétablie. Au travers de la repentance, la reconnaissance de notre besoin, mais aussi la solution divine qui est la croix, nous le savons. Donc la mort, c'est pas l'anéantissement, mais la séparation. Notre corps n'est pas immortel. Notre corps est mortel, notre âme est immortelle, mais le corps est mortel. Il aurait peut-être dû être préservé de la corruption au travers de cet arbre de vie, dans le jardin d'Éden, où après un certain temps de vie ou d'apprentissage de vie, en prenant ce fruit qui était prévu pour la vie éternelle, Dieu nous aurait simplement transformé, donné un corps capable de supporter l'éternité, et nous serions partis sans la mort dans l'éternité. Un peu comme Enoch, il marcha avec Dieu, puis tout à coup, il se retrouve dans le ciel. Tout à coup, Dieu le prit, vivant qu'il était. Est-ce que ce serait une image de ce que Dieu avait prévu au départ ? Et d'ailleurs, nous retrouvons cet arbre de vie dans l'Apocalypse à la fin, qui sera accessible et qui donnera des fruits en permanence pour la guérison des nations. En attendant, nous passons par la mort pour que notre âme soit dans la présence de Dieu et nous attendons le corps nouveau, sans lequel nous ne pouvons pas servir ni voir le Seigneur vraiment. Alors les morts sont dans la présence de Dieu, mais l'état final, parce que nous parlons du plan final de Dieu, c'est le nouveau corps de résurrection qui sera comme le corps de Jésus. Ce nouveau corps va se réunir avec notre âme, notre véritable personnalité, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il habitera avec nous et nous avec lui. On peut utiliser une image qui pourrait confirmer cette pensée que Dieu n'avait pas prévu que l'homme meure pour que son corps retourne à la terre et qu'un jour il reçoive un nouveau corps. Parce que la nature même nous l'enseigne. Est-ce que quelqu'un qui a semé du blé va-t-il laisser le blé monter? Est-ce qu'il va attendre que le blé soit tellement mûr qu'il pourrisse sur pied pour l'engranger? Non, il va le récolter quand il est mûr, quand il est au plus beau, quand il est au maximum de son résultat. C'est là qu'il va l'emmener dans sa grange. Donc quelque part, le Seigneur avait prévu au départ que nous serions moissonnés quand nous serons au maximum de notre maturité. Une parole qui me console par rapport au deuil, il ne faut pas la dire à tort et à travers, mais il faut la dire vraiment d'une manière inspirée à certaines personnes, je pense. Et quelques personnes qui sont décédées, qui étaient des deuils relativement difficiles, cette pensée est la suivante, c'est que Dieu récolte ce qui est mûr. Cette pensée a déjà consolé bien du monde. Dieu récolte, Dieu prend avec lui dans son ciel quelque chose qui est mûr, comme le moissonneur qui a pris la gerbe. Encore une fois, n'utilisez pas cette parole à tort et à travers. Il faut qu'elle soit inspirée et donnée au bon moment à la situation que vous connaissez. En attendant, notre corps, eh bien, suit dans l'évolution de la vie une montée. Nous sommes très forts, nous sommes beaux, nous sommes magnifiques. Et quand je vous vois, vous le restez, j'ai l'impression que vous ne vieillissez pas. Mais nous sommes quand même sujets au vieillissement. Et l'Ecclésiaste nous le décrit d'une manière un peu poétique en disant au chapitre 12, peut-être vous l'avez déjà lu, hein, que viendra le temps, viendra le moment où le soleil, la lumière, la lune, les étoiles s'obscurcissent. Ça veut dire qu'on voit moins bien les choses. Où les gardiens de la maison tremblent, c'est-à-dire qu'on a les genoux un petit peu chancelants, moins forts, moins robustes, où les hommes forts se courbent, le dos commence à se courber un petit peu, à se voûter un peu, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où on perd un peu ses dents, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, le regard est moins clair, où les battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, c'est-à-dire qu'on entend moins bien, où on se lève au chant de l'oiseau, c'est-à-dire on dort moins, c'est vrai mes frères et sœurs âgés, c'est vrai, vous dormez moins, où s'affaiblissent toutes les filles du chant, c'est-à-dire on entend moins bien, puis aussi on a moins envie, on a une voix qui est beaucoup moins solide qu'avant, où l'on redoute ce qui est élevé, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de monter sur des échelles encore très, très haut, où on a des terreurs en chemin, on a peur de beaucoup de choses, etc., etc. Et puis ça décrit tout un peu les organes qui sont soumis à l'âge, hein, qui sont soumis aux années qui passent. Et l'Ecclésiaste qui parle de cette vie sous le soleil nous en parle. Après la mort donc terrestre, vient le lieu de l'éternité. L'un est appelé le Sheol ou le Hadès, selon le grec, qui est l'image d'un gouffre, d'une fosse sans fond, d'un lieu de non-retour, d'un lieu où il n'y a pas de louange, c'est un lieu de châtiment et de souffrance. Il faut dire que l'écriture, quand même, est relativement sobre. Lorsque vous regardez des vidéos de gens qui ont apparemment vécu l'enfer pendant quelques minutes ou un certain temps, dans un rêve ou dans une expérience de mort, de vie après la mort, quelque chose comme ça, il faut toujours faire attention parce que ça reste une expérience personnelle. L'écriture reste sobre, donc restons sobres, nous aussi. Ça reste quelque chose de très personnel. Toutefois, les éléments que Jésus lui-même a donnés, les éléments que le Seigneur lui-même donne à sa parole, sont suffisamment explicites pour que tout le monde comprenne, depuis l'enfant jusqu'à n'importe quelle personne qui a, quelle que soit l'éducation que nous ayons reçue, suffisamment clair pour qu'on n'y aille pas. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer à l'enfant la formule mathématique ou la formule chimique du produit qu'il ne doit pas toucher pour se faire mal ou pour être quelque part touché par quelque chose de mauvais? Non, on dit simplement ne touche pas, c'est chaud, ou bien ça fait mal, etc. Ça suffit, l'explication est suffisante sans qu'on ait besoin de tout savoir. Si le Seigneur dit que c'est un lieu de soufre et de feu, un lac de feu, et je crois que c'est quand même assez clair, sans qu'on ait besoin d'aller prendre sur une éprouvette et de mettre ce lac de feu dans un laboratoire de chimie pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. On n'a pas besoin forcément de tout savoir. Ça suffit de savoir qu'on souffre éternellement dans un lieu horrible, et de remords. Beaucoup, beaucoup de choses sont données comme détails, mais ils sont suffisants pour qu'on puisse tous y croire et savoir qu'il ne faut pas aller là. Maintenant, il y a le paradis. Le sein d'Abraham, dans cet endroit où va partir Lazare, c'est ce lieu de consolation qui n'est pas forcément le paradis proprement dit à ce moment-là, mais qui va, après la résurrection de Jésus, devenir le paradis. C'est un petite explication théologique dans laquelle je n'entre pas en matière ce matin, mais le sein d'Abraham, on va dire que c'est la salle d'attente du paradis. Le mot paradis, ça veut dire aussi le jardin, le parc, le lieu de paix, de bonheur, la restauration de l'harmonie où la souffrance est absente. Et là aussi, nous avons aussi des explications. Les textes bibliques, par exemple, Hébreux 12 nous dit « Vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, etc. et l'esprit des justes parvenu à la perfection. » Donc le plan de Dieu va dans le sens d'une perfection. Ce que Dieu fait sera parfait. Apocalypse 7 nous dit « Il y aura une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. » Hallelujah. « Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes à leurs mains. » Les prophètes avaient vu que ce serait un temps de faste où le plus jeune va mourir à 100 ans, où ce temps sera l'éternité sur terre, la nouvelle terre. C'est ce que les prophètes ont vu en premier. Mais l'Apocalypse nous montre qu'il y aura des nouveaux cieux où la justice habitera. Il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux qui seront ce règne du Seigneur dans le millénium, mais aussi de l'éternité dans le paradis. Revenons à notre texte de Luc chapitre 16. Nous voyons que ces deux hommes meurent en même temps. Il nous est dit que le riche, tout d'abord on peut dire, en lisant ce texte attentivement, que le riche ne va pas mourir et être en enfer parce qu'il est riche. Que ce soit bien clair. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est perdu. Mais c'est à cause de son indifférence face à son frère à côté. Son indifférence et cette vie centrée sur lui. Il n'est même pas dit que le riche était un grand pécheur. Mais son péché, c'était son indifférence. Son cœur sans amour, sans partage. Il savait ce qui était juste. Il savait ce qui était bien, mais il ne l'a pas fait. Et il se retrouve dans l'éternité de perdition. Le péché, ce n'est pas forcément faire de grosses choses qui sont jugées même par le tribunal des hommes. Mais pour Dieu, c'était suffisant pour être perdu. Donc il nous est dit simplement qu'il fut enterré. Tandis que Lazare, qui veut dire « Dieu est mon secours », il avait mis sa foi en Dieu, il n'avait pas grand-chose, il n'avait rien, il était même malade. Mais lui fut escorté par des anges au ciel. Alléluia. Et ça, j'aime le dire aussi lors des services funèbres. Lorsqu'un chrétien meurt, il est escorté par des anges. Alléluia. Je me souviens du pasteur Étince, que peut-être certains ont connu. Je l'ai visité peu de temps avant son décès à l'hôpital et sa famille m'a raconté que au moment où il est mort, il a tourné son regard vers la porte comme si quelqu'un rentrait avec un sourire et un visage rayonnant. Il est mort à ce moment-là. Il a vu quelqu'un venir le chercher. Peut-être que des personnes ont... Vous connaissez des gens qui ont vécu des choses similaires ou des gens sont morts en sachant qu'on venait les chercher. Voilà, ceci dit, les anges sont venus chercher Lazare et l'amènent donc au paradis. Premièrement, nous savons maintenant qu'il y a des lieux et nous savons qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ce qui est intéressant, c'est que ce riche, il est parfaitement conscient de ce qui se passe. Regardez, il se retrouve dans le lieu du séjour des morts. Il reconnaît Abraham, qu'il n'a jamais vu. Il reconnaît, il sait que c'est Abraham. Il sent, il éprouve la souffrance. Il se souvient qu'il a des frères à la maison. Il se souvient de quelque chose de terrestre, la maison de son père. Et même, il va prier. Il va prier. Un mort qui prie dans l'éternité, c'est peine perdue parce qu'il ne sera pas exaucé. Il ne sera pas exaucé. Et la clé de ce passage, au niveau de la décision et de la responsabilité humaine, est celle-ci. Regardez ce qu'il va dire au verset 30. Il va se démener pour ses frères. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que les autres soient avertis. Il ne faut pas qu'ils viennent ici sous aucune condition. Il faut qu'un mort ressuscite pour leur dire. Il faut qu'il y ait un grand miracle pour que ces personnes ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Et Abraham va simplement le ramener à Moïse et les prophètes, donc aux Écritures. Et l'homme va dire quelque chose que j'ai souligné dans ma Bible. Il va dire « Non, Père Abraham !» Donc il conteste ce qui se passe dans l'éternité. Il dit « Non » dans l'éternité. Et ce que je retiens de ce texte, vraiment retenez ça. Celui qui dit « Non » à Jésus ici-bas, il ne changera pas d'avis quand il sera là-haut. Vous direz la même chose. Celui qui dit oui à Jésus, il dira oui à Jésus dans l'éternité. Mais celui qui dit non à Jésus ici-bas, non au salut, non à ce que Dieu veut, il ne changera pas d'avis une fois qu'il sera mort. C'est pour ça que ceux qui disent oui, mais à la fin, quand on est en train de partir, les gens vont de toute façon dire oui à Jésus. Ça, ce n'est pas garanti du tout. Il n'y a rien qui nous garantit ça, rien du tout. S'ils changent d'avis au dernier moment, c'est une pure grâce. C'est une pure grâce. Et moi, je crois dans des prières de personnes qui ont prié toute leur vie pour leur famille, pour leur père, leur mère ou quelqu'un, et qui, à la fin, peut-être, n'y savent pas s'ils sont sauvés. Mais moi, je crois que Dieu entend la prière de toute personne qui a prié avec ferveur et foi dans les larmes pendant toute leur vie. Dieu exauce. Mais nous n'avons aucune garantie que la personne, au dernier moment, ait accepté le Seigneur. Je connais aussi des témoignages où des personnes avaient tellement besoin d'être consolées en sachant « Seigneur, montre-moi où il en est. Montre-moi s'il est sauvé ou pas. » Et certains ont reçu comme une paix intérieure. D'autres ont reçu peut-être un rêve. Mais encore une fois, il faut être prudent, voyez-vous. Parce que dans nos rêves, souvent, c'est le produit de ce qu'on aime. Et ça produit un rêve. Ce que tu souhaites de tout cœur, tu en fais un rêve. Et la nuit, tu penses, ah, je l'ai vu sauvé. Voilà, c'est toujours quelque chose de personnel. Nous ne pouvons pas en faire quelque chose de dogmatique et de biblique suite à des expériences personnelles. Donc revenons à notre texte. Cet homme va donc être dans le shéol, donc dans la perdition. Tandis que, et c'est de là que j'aimerais parler un petit peu maintenant, l'autre, Lazare, va se trouver dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Parce que, frères et sœurs, nous devons nous souvenir et vivre dans cette perspective d'éternité que nous ne sommes pas ici-bas d'une manière permanente. Nous sommes que des étrangers, des voyageurs, des pèlerins, et notre maison, c'est une petite tente. Ton corps, c'est une tente, ta vraie demeure en dur se trouve dans la maison du Père que le Seigneur a préparée. Il est dit dans Hébreux 13, verset 14, « Nous n'avons pas ici de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. » C'est pourquoi nous ne devons pas tout construire sur la terre, tout avoir comme si nous vivions éternellement, Par contre, on vit avec sagesse, si on peut se permettre d'avoir des belles choses pour nous et pour notre famille, pourquoi pas, bien sûr. Et dans le sens que nous sommes quand même toujours voyageurs et étrangers sur la terre. Abraham attendait la cité, Abraham qui était très riche d'ailleurs, il attendait la cité qui a de solides fondements, il cherchait une patrie meilleure, le sein d'Abraham. 2 Corinthiens 5:12, encore un texte qui nous le corrobore aussi. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, cette petite tente canadienne, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, nous avons en nous cette espérance que notre véritable corps nouveau, c'est le nouveau corps que nous recevons, c'est notre domicile céleste que le Seigneur prépare pour nous. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur, dira l'apôtre Paul. Je désire quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc le ciel, c'est vraiment ce lieu que Jésus prépare. Je m'en vais pour vous préparer une place. Préparer une place. Il nous prépare quelque chose. Quelque chose est en préparation. La Nouvelle Jérusalem, la ville sainte, préparée comme une épouse. Il y a quelque chose qui, en ce moment même, se prépare là-haut. Quelque chose se prépare. Le Seigneur travaille encore maintenant à quelque chose qui se prépare pour l'épouse. L'épouse qui doit se préparer pour le mariage. Le fait que vous preniez conscience que vous êtes l'épouse de Christ, pas seulement que vous êtes pèlerin et que vous allez tout à coup recevoir votre nouveau domicile, c'est une chose, mais nous sommes l'épouse, ça veut dire que je me prépare à ce grand mariage aux noces de l'agneau. Une épouse n'est pas juste quelqu'un qui est juste comme ça, et tout à coup, ah oui, je suis l'épouse, et puis voilà, on est ensemble. On se prépare pour le jour du mariage, on se prépare pour les noces de l'agneau. Donc, si le Seigneur prépare de son côté, nous devons nous préparer de notre côté également. Le ciel est donc ce lieu de la gloire, ce lieu de la pureté, où notre nom est inscrit. Lorsque vous arriverez à votre table des noces, votre nom sera sur une affiche, sur votre table, peut-être même brodé sur la nappe. Votre nom y figurera. Le ciel, ce sera la fin de certaines choses. La fin du mal, la fin des tentations, la fin de la souffrance, la fin de tous les pourquoi, la fin des douleurs et des larmes, la fin des maux de vieillesse. J'entends personne qui dit « Amen », je suis étonné, hein? Je suis très étonné. On n'apprendra plus rien, on sera plus en voie d'apprentissage. C'est ici le lieu d'apprentissage pour apprendre à résister à la tentation, pour apprendre à pardonner, pour apprendre à aimer, pour apprendre mille choses. Là-bas, ce sera terminé. La peine du travail sera finie. Nous servirons encore, mais nous ne serons plus fatigués. La peine du travail sera terminée. C'est le sabbat éternel. C'est la fin de la prière. On ne priera plus parce qu'on n'aura plus de besoin. Il n'y a plus que l'adoration. La connaissance partielle sera remplacée par la connaissance totale. Même le soleil et la lune seront superflus. La présence de Dieu éclairera tout pleinement et suffisamment. C'est la restauration de toutes choses. Ce sera le lieu des retrouvailles. Alléluia! Alléluia, nous retrouverons tous ceux qui nous ont précédés. Nous les reconnaîtrons tous, bien sûr. Nous reconnaîtrons David, Élie, Samuel, Adam, Ève, etc. Nous reconnaîtrons Paul et nous reconnaîtrons chacun sans même les avoir jamais vus sur la terre. Nous les reconnaîtrons parce que nous serons dans une dimension de sagesse et d'intelligence, bien sûr, tout autre. C'est aussi dans ces retrouvailles la perfection du plan de Dieu dans cette réunion. Le Seigneur va réunir ciel et terre. Il va unir toutes choses en Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 10. Genèse 1 et 2 et l'Apocalypse 21, 22 nous montrent cette terre où Dieu était avec l'homme et à la fin Dieu sera avec l'homme aussi, avec le peuple, son peuple. C'est réunir toutes choses et offrir une épouse à son fils. C'est réunir toutes choses. Et puis, le ciel sera le lieu des récompenses. Ce que tu auras fait à ton prochain ne sera pas en vain, mon frère. Regardez, lorsque tu donnes un festin, tu invites les pauvres, les estropiés, les boiteux, Tu seras heureux de ce qui ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Quiconque donnera seulement un verre d'eau à un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Votre héritage est impérissable, sans souillure, inaltérable. Il vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Et finalement, on a le droit de dire, je m'attends à des récompenses, Seigneur. Oh non, on dit, on est tellement spirituel, on dit, Seigneur, oh, c'est pas important. L'important, c'est que je sois du bon côté. Pour le reste, on verra. Non, l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il s'en réjouissait. Non, c'est pas négligeable, c'est pas accessoire. Les récompenses, ça va être un grand moment, ça va être quelque chose d'incroyable. Dans les camps d'enfants, lorsqu'on arrive toujours à un moment où il n'y a jamais d'enfant absent, c'est quand on arrive aux récompenses. Quand il y a les jeux, quand il y a toutes les activités qui savent qu'il y a une récompense, ils sont tous là en première ligne. Personne n'est parmi les abonnés absents. Tout le monde est là et veut attraper la récompense. La récompense compte. Ce n'est pas négligeable. Parce que ce sont des valeurs éternelles que nous ne voyons pas ici, mais qui nous sont réservées là-haut. Et le Seigneur le veut comme ça. Je termine mon message pour ce matin. Dieu n'est pas injuste, Hébreux chapitre 6. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendons encore des services aux saints. Car nous attendons en ce qui vous concerne des choses meilleures. Des choses meilleures, des choses meilleures. Les choses les meilleures sont en réserve pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Et ce pauvre Lazare qui est consolé de tous ces maux, qui est dans un lieu de sécurité, eh bien, il ne peut pas revenir en arrière. Et le riche qui voudrait tellement revenir en arrière et changer d'endroit, il ne pourra plus. Retenez ce matin qu'il y a deux endroits. Retenez que la Bible est claire, elle nous dit le nom de ces deux endroits, ce sont des lieux. La Bible dit ce qui s'y passe. Ce qui nous attend dans les deux endroits. Et nous qui disons au revoir à ce lieu de perdition, nous disons, je me réjouis du lieu du bonheur et des récompenses qui m'attendent aussi. C'est pourquoi la perspective d'éternité me motive ici-bas. Elle me motive de faire ce que j'ai à faire, de faire le maximum, car vous ne regretterez aucun service que vous aurez fait pour Dieu, que vous aurez fait en Christ, car les récompenses vous attendent. Amassez-vous des trésors dans les cieux. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Quand nous arriverons dans le ciel, quelqu'un disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? La personne va répondre, je me précipite vers Jésus pour lui dire merci. Je tombe à ses pieds pour lui dire merci de m'avoir sauvé. Puis après, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais chercher la personne qui m'a parlé de Jésus pour la première fois. Et je lui dirai aussi merci. Et puis, je vais dire merci à tous ceux qui m'ont encouragé dans ma foi. Et toute l'éternité, je ferai ça. Je vais passer de personne en personne, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont encouragé. Le Seigneur nous attend. Et des choses extraordinaires nous attendent dans cette éternité avec lui. Préparons-nous. Le Seigneur prépare une place. L'épouse que nous sommes doit aussi se préparer. Seigneur, on te bénit, on te loue. Seigneur, de pouvoir lever un tout petit peu ce voile sur l'éternité. Seigneur, de savoir que l'éternité, c'est pas, ouh, c'est loin, c'est vague, c'est bizarre, c'est quelque chose d'incompréhensible. Non, nous avons beaucoup de détails qui nous sont donnés pour nous encourager dans notre foi, à tenir ferme, à faire ta volonté, Seigneur, et à nous attacher à toi parce que ce sera le lieu des retrouvailles, le lieu des récompenses, le lieu de la réunion de toutes choses. Seigneur, ce sera le lieu où tout le mal sera éradiqué. Seigneur, ce sera vraiment le lieu de la restauration, le lieu, Seigneur, où le bonheur et la félicité seront pour toujours. Seigneur, en attendant, nous avons beaucoup à faire. Nous avons à engager notre vie chrétienne, Seigneur, dans tous les sens du terme, pour donner notre vie pleinement, pour qu'un maximum de personnes puissent hériter, Seigneur, de ce paradis, de ce jardin, du paradis, de cette éternité, de cette nouvelle Jérusalem. Seigneur, c'est ça que nous voulons, et nous voulons poursuivre, Seigneur, ce but, comme l'apôtre Paul, pour obtenir la couronne de vie. Amen. Amen. Amen.